blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Paul Alain Clivat, on se retrouve pour parler d'énergie. On va revenir un petit peu à ces projets hein, de deux éoliennes dans la plaine du Rhône, entre Collonges et Dorénard. Il y en a déjà une. Là, alors en ce moment, déjà, vous allez m'expliquer un truc. Hein. On voit les deux éoliennes de la plaine du Rhône, là, celle de Martigny qui tourne, celle de Collonges-Dorénard qui est à quelques kilomètres et qui ne tourne pas. Pourquoi ? Ça, oui. Je pense qu'on s'est tous posé la question. Hein. Je dis, mais il y a du vent, pourquoi elles ne tournent pas, ces éoliennes ?
Oui, alors quand vous dites qu'elles tournent, celle de Martigny, elle tourne très très lentement. Donc là, on est avec une production qui est quasi nulle. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de thermique qui descendent la vallée du Rhône comme c'est le cas habituellement dans des situations anticycloniques stables. Là, on sort d'une période un petit peu de mauvais et puis jusqu'à ce que la météo redevienne stable et prévisible, hein, parce que ici effectivement on peut bénéficier de thermiques qui tous les matins descendent du massif du Grand Saint-Bernard en direction du lac Léman, puis à midi
et frise tout Martigny
et à midi vous avez une petite période de répit, le vent tombe et change de direction, les éoliennes également se tourne face au vent et là vous avez le vent montant qui part du Léman puis qui va friser alors cette fois jusqu'à Charras et Saxon qui fait tourner ses éoliennes. Donc là actuellement effectivement l'éolienne de Collonges ne tourne pas, mais celle de Martigny est quasiment à l'arrêt parce qu'on n'a pas beaucoup de vent non plus.
Souvent, moi j'ai eu aussi cette réflexion, mais vous venez de l'expliquer finalement. Hein. On a l'impression qu'elle ne tourne pas si vite. L'idée de la petite éolienne hein, qu'on a sur sa caravane, c'est que ça tourne très très vite s'il y a beaucoup de vent, évidemment. Là, c'est jamais le cas. Hein,
non, c'est jamais le cas. C'est vrai que les petites éoliennes on peut les appeler des toupies, hein, ça tourne très très vite, alors que là, les éoliennes qui sont dans la plaine du Rhône ont des pales d'une envergure de 30 mètres pour, de rayon hein, pour celle de Collonges, jusqu'à 50 mètres pratiquement à celle de Charras. Et la vitesse de rotation est lié à la longueur des pales. Plus les pales sont longues, moins les éoliennes tournent vite. Et c'est vrai qu'on est sur des vitesses de 12 à 15 tours par minute. Donc ce n'est pas effectivement les petites toupies que l'on voit ou bien les jouets que vous avez dans les mains des enfants.
Ou les moulins de l'ancien temps, qui étaient évidemment dépendants de la force du vent. Là, on maîtrise, on gère l'éolienne.
On gère, c'est-à-dire que la vitesse est compensée par une surface balayée qui est bien plus importante. Oui.
Alors, ces projets, dans quelques années peut-être, hein, parce que c'est pas encore... Vous l'espérez, tout le monde ne l'espère pas. Il y aura deux éoliennes de plus entre Collonges et Dorénard. Vous avez communiqué cet été avec un rejet du tribunal cantonal d'un dernier recours qui n'a pas été envoyé au tribunal fédéral. Donc, le plan d'affectation finalement qui permet, hein, par le Conseil d'État, l'établissement de ces deux éoliennes est définitivement accepté. 17 ans, vous l'avez dit, il a fallu 17 ans de procédures, de recours, de sur-recours, de nouvelles études, etc. Quelle affaire, hein ?
Oui, quelle affaire, hein, comme vous dites. Je ne sais pas si c'est un record de longévité pour la naissance d'un tel projet, mais c'est vrai qu'en Suisse, les procédures sont toujours assez longues. Et là... Il y a quand même un élément qui peut expliquer la longueur de la procédure, c'est que c'était... pratiquement la première éolienne de ce type qui a été installée en Suisse. Lorsque le dossier a été constitué pour ce plan d'aménagement détaillé, nous n'avions pas toutes les connaissances que nous avons actuellement sur l'énergie éolienne. Et lorsque le dossier est monté jusqu'au tribunal fédéral, celui-ci nous a demandé de compléter le dossier avec des études supplémentaires. Alors après, c'est vrai que ces études ont prouvé la justesse du projet. Elles ont toutefois été ralenties parce qu'il y avait une personne qui faisait opposition. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours dénigrer, on va dire, le résultat des études, demander des contre-études, etc. Et ça a pris plus de temps que prévu ou qu'imaginé.
Bon, l'histoire de l'industrie, pas forcément l'industrie énergétique, mais enfin, elle est pleine aussi d'études complaisantes qui ont permis de faire des choses qui ont été mauvaises au final. Hein. Je pense à l'industrie du tabac, par exemple. Mais bon, on ne va pas arriver là-dedans. on n'y est pas encore, hein, 17 ans. Maintenant, c'est la phase des permis de construire. Il peut donc y avoir encore des oppositions. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais tout de même, on est aujourd'hui dans un moment un peu clé quand même, et tout le monde s'en rend compte. On a ce temps des procédures qui ne concerne pas que ces projets-là. Une nouvelle maison, ça peut prendre très longtemps. Des projets publics, ça peut prendre des éternités. Et puis, on est en même temps dans le discours de l'urgence. Il faut y aller, c'est maintenant, il faut le faire. Le réchauffement climatique, les guerres, les possibles pénuries. On est dans un moment charnière de gap là, entre ces temps de procédure qui peuvent être extrêmement longs, qui protègent le citoyen, et puis l'urgence.
Oui, c'est vrai. Non seulement il y a urgence, mais il y a aussi une volonté quand même de la population de vouloir construire des centrales de production d'énergie renouvelable. On l'a vu avec la votation.
On parle du cas particulier, il y a eu votation dans les deux villages.
Hein, alors, il y a eu votation dans les deux villages en 2007 et 2008, mais si on remonte à quelques mois ou semaines en arrière, au mois de juin, le peuple suisse a quand même accepté à une large majorité le développement des énergies renouvelables. Et donc, effectivement, c'est un peu paradoxal parce que la population majoritairement souhaite qu'on aille de l'avant dans ces projets, mais les lois, les procédures ne suivent pas forcément, et on comprend que, alors il est tout à fait juste que les citoyens puissent faire opposition, puissent poser des questions, puissent demander des compléments. Par contre, c'est vrai que des fois, il y a tendance à ne pas avoir de limite à ces demandes, et les procédures sont très longues. Les décisions prennent beaucoup de temps au niveau de tous les organes décisionnels. Et là, effectivement, les lois n'ont pas été adaptées.
Vous disiez en première partie, une quarantaine d'éoliennes aujourd'hui en fonction en Suisse, 1000 hein, selon les plans du Conseil fédéral, ça pourrait être un horizon à atteindre. Pour le coup, on ne va pas y arriver s'il faut 20 ans à chaque fois.
Si rien ne change d'un point de vue politico-juridique, je dirais, ça risque d'être compliqué, effectivement.
Donc il y a un combat à mener pour vous sur cette politique des recours et la facilitation finalement des projets.
Oui, d'ailleurs, le Parlement fédéral s'y est déjà penché, hein, avec la loi Wind Express, hein, qui, sous certaines conditions, pour des projets d'envergure nationale, limite un peu le droit de recours. Mais il y a d'autres lois également qui devraient être modifiées. Vous comprenez, lorsque vous construisez une éolienne, vous êtes soumis aux mêmes procédures d'autorisation de construire que si vous construisez une maison, par exemple. Ce n'est pas du tout le cas dans le domaine de l'hydraulique, où là, la loi sur les forces hydrauliques a mis en place d'autres procédures de construction, où vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les détails techniques déjà au moment de la conception, et vous pouvez, pendant le projet, on va dire, avec le service de l'énergie et des forces hydrauliques, adapter le projet et puis faire en sorte que le projet corresponde au mieux aux besoins, et puis finalement puisse être adapté en fonction des conditions rencontrées sur le terrain. Pour l'éolien, on n'est pas du tout dans cette procédure-là, et aujourd'hui, il y a des embûches qui sont de nature légale, qui nous empêchent d'aller plus vite, et puis surtout qui font en sorte qu'il faut vraiment tout planifier dès le départ, et c'est compliqué après, parfois, de respecter ce que l'on a planifié il y a 15 ans au préalable.
Oui, les durées qui sont un peu folles, évidemment.
Exactement.
L'essor des renouvelables est là, ça on peut le dire, il est aussi entré dans les consciences, dans la tête des gens. Le solaire, ça reste le capital le plus sûr.
Ça reste le capital le plus accessible, je dirais. C'est vrai qu'il est possible de construire des centrales solaires assez rapidement. Là, ben justement, il y a eu des ajustements de loi qui font que on n'a plus besoin de faire de demande d'autorisation de construire. C'est une annonce pour mettre en place des panneaux solaires sur sa maison. Et dans ce domaine-là, ben on voit qu'il y a eu une rapide évolution sur les 10 dernières années. Quand des gens me disent qu'on ne va pas encore assez vite, etc., je leur rappelle qu'il n'y a même pas 10 ans en arrière, lorsque vous vouliez construire une installation photovoltaïque, vous n'aviez pas le droit d'utiliser ce courant pour vous-même. Vous aviez l'obligation de réinjecter le 100% dans le réseau. Donc vous imaginez ce qui s'est passé en quelques années.
Si on va par là, il y a aussi un moment où on a imaginé que les particuliers pourraient devenir des producteurs rétribués. On a vu que ça a vite disparu, hein, ou du moins ça a été rétribué dans des proportions minimales, ce qui crée de la frustration chez les gens qui ont installé des panneaux. Hein.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu, la rétribution à prix coûtant. Hein. Avec cette liste d'attente qui a à un moment donné causé du tort à des gens qui avaient investi avec un but un peu spéculatif quand même là-dessus, ça c'est tout à fait vrai. Ça a quand même été corrigé avec la rétribution unique qui a permis de recevoir un montant quand même assez conséquent au moment de la construction. Et c'est vrai qu'avec ensuite l'autorisation de l'autoconsommation, les projets sont devenus, sont restés rentables. À quelques exceptions près, effectivement, il y a des gens qui sont mis dans des situations difficiles. On peut imaginer des gens qui ont emprunté pour construire une grande centrale sur une grange, par exemple. Voilà, exactement. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des situations très délicates et ça, on doit le reconnaître. Mais malgré tout, je pense que la Suisse a quand même évité de faire du tout ou rien, pratiquement comme ça s'est passé dans des pays voisins où du jour au lendemain, il n'y avait plus aucune subvention et toute la branche a été en mode panique pendant quelques temps.
Bon, par contre, j'entends déjà certains de nos auditeurs frustrés qui se disent « tout ça, c'est pour engraisser les grandes compagnies ». Alors, on peut aller dans ce discours-là, ce ne sera pas le vôtre, évidemment, mais on peut quand même rappeler, et ça, c'est mon honnêteté que de le dire, que la plupart de ces grandes compagnies d'énergéticiens sont tenues en majorité par des fonds publics. Hein.
Tout à fait, nous sommes, en ce qui concerne Genedis, dans un actionnariat communal à 80%, le 20% étant détenu par les forces motrices valaisannes qui sont également en main publique. Après, il peut y avoir des fois des frustrations parce qu'effectivement, certaines personnes ont pu recevoir plus de subventions à un moment donné que d'autres. Il y a aussi les prix hein, qui varient, qui ont été à la baisse pendant des années. Donc, à un moment donné, certaines personnes ont peut-être construit lorsque c'était un peu cher et puis elles se sont dit « Zut, si j'avais attendu 2 ans, j'aurais payé moins cher mon installation ». Après, il y a eu un phénomène, par contre, qui a été compliqué à gérer de notre côté. C'est ce que vous aviez évoqué en tout début d'émission. C'était le pic du prix d'énergie en 2022, où là, toutes les personnes qui avaient construit une installation photovoltaïque pensaient pouvoir s'enrichir rapidement avec un prix du courant à 50 ou 60 centimes. Et ça a faussé un petit peu la donne, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on n'avait plus de stabilité, on ne savait plus quelle était la base de calcul à prendre en considération pour un horizon de 10 à 15 ans. C'est la boule de cristal. Et si des gens pensaient que le niveau de prix allait se tenir à ce niveau-là, eh bien, ils ont dû déchanter par la suite. Mais entre-temps, il y a eu quand même une petite bulle où les gens qui ont réussi à construire durant cette période ont pu, en 2-3 ans pratiquement, retrouver leur investissement. Et aujourd'hui, on est de nouveau dans une phase où si vous construisez une centrale photovoltaïque sur votre maison, il faut compter peut-être 8 à 10 ans pour l'amortir.
Pour
une installation qui dure 30 ans. Et c'est ce que l'on disait, ce qu'on expliquait en 2017, 18, 19. Donc on est revenu à ce niveau-là. Mais entre deux, il y a eu beaucoup d'incohérences dans le système et l'instabilité n'est jamais bonne.
Bon, l'instabilité n'est pas bonne. On ne va pas forcément vers des périodes stables, mais on a pu dire ça à toutes les périodes de l'histoire.
C'est
donc
vrai.
Restons confiants. Merci à vous, Paul-Alain Cliva, et bonne journée. On est à Salvan avec cette vue sur la plaine du Rhône. Je pense qu'on va rester un petit peu.
Merci beaucoup.